Merci beaucoup. Rebonjour, merci d'être à nouveau parmi nous pour cette deuxième partie de matinée dont le titre est « Les nouvelles constellations satellitaires au service du bien commun ». Donc, quels usages, pour quels bénéfices et quels impacts ? Donc, ce sont des questions qu'on a déjà commencé à amorcer, d'une part lorsqu'on a eu l'intervention des trois dirigeants, des trois institutions qui organisent cette journée. Et ce sont des questions qui ont également émergé lors de la première série de questions-réponses que nous avons eues au début de la session précédente. Donc on est parti pour une heure ensemble, une petite heure ensemble. On va tenter de faire en sorte que le retard pris ne gêne pas au débat et également à l'interaction avec vous. Avant peut-être de lancer cette discussion, on peut passer sur la page suivante avec les intervenants. Je souhaitais introduire cette séquence en permettant à Loïc Duflo, qui est à ma gauche, Loïc, tu pilotes le service numérique de la Direction générale des entreprises. On trouvait intéressant de commencer cette séquence par parler de numérisation, parce que vous avez entendu, on a beaucoup parlé d'usage. On a également parlé de données. Lorsque j'ai dialogué avec Julien et Sabrina, je parlais de la question de l'aval et de l'amont. Et il faut savoir que si on a des satellites dans l'espace, c'est parce que vous toutes et vous tous ici, et j'en fais partie, utilisons un certain nombre d'applications, de services numériques qui font appel à ces technologies. Dans le rapport dont parlait Julien, je lisais un chiffre qui est critiqué, mais qui disait qu'en moyenne, un Français fait appel, utilise 47 fois, donc c'est une moyenne et c'est un chiffre à prendre avec des pincettes. Laurence l'a bien rappelé, les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes parce qu'il faut savoir comment et par qui ils sont mesurés. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, via nos smartphones, entre autres, pas que, nous sommes des consommateurs très intensifs de services qui font appel à des satellites. Et donc, on l'a bien entendu, re-questionner les usages, ça demande aussi de se poser la question de où est-ce qu'on en est en termes de numérisation quel panorama pouvons-nous dresser pour pouvoir avoir une discussion? Et donc, c'est pour cette raison, Loïc, que je suis ravi de t'accueillir pour que tu nous dresses un panorama qui n'est ni neutre ni objectif, mais qui est le panorama quand même qui émane de l'institution qui travaille avec les entreprises en France à Bercy. Loïc, bonjour.
Bonjour, merci Toufik. On va quand même essayer de rester neutre et objectif, rassurez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça serait sans doute une introduction un peu tarte à la crème, ce qui serait à propos avec le buffet juste à côté, si je vous disais que le numérique est devenu indispensable, mais ça ne rend pas moins cet adage véridique. Il est indispensable pour les entreprises, évidemment. Le dernier baromètre France Num que nous avons publié il y a quelques temps montre que 75% des patrons de TPE-PME sont aujourd'hui convaincus de l'importance de réaliser cette numérisation, que 84% d'entre eux ont déjà une présence en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou un site de vente en ligne par exemple, et que déjà plus de la moitié d'entre elles, de ces TPE-PME, ont plus de 5% de leurs clients acquis via les canaux numériques. Donc pour les entreprises, on est vraiment dans un numérique qui a toujours été, mais devient de plus en plus indispensable. C'est également le cas pour les citoyens. Le numérique, c'est un facteur d'inclusion, de participation à la vie sociale et citoyenne, mais également à la vie privée de tout un chacun. Donc cet accès au numérique, ça a été dit tout à l'heure. En France, on a fait un choix résolu pour tout ce qui est accès fixe de la fibre optique, avec un objectif de généralisation de la fibre optique à horizon 2025. On n'y est pas encore tout à fait. Je crois que les chiffres de l'ARCEP, corrigez-moi, c'est qu'environ 85% des locaux aujourd'hui sont couverts par la fibre optique. Et donc le reste aujourd'hui, des locaux sont couverts par un mix technologique qui comprend, outre la fibre, d'autres technologies fixes et également les technologies mobiles et les technologies satellitaires. Pour le mobile, les réseaux mobiles sont très déployés en France. Je crois que chaque opérateur couvre plus de 99% de la population, mais là aussi, il reste encore des zones où la téléphonie mobile reste difficilement accessible. Et par ailleurs, il y a de nombreux usages industriels qui se développent dans les plus grandes entreprises, mais aussi sur les plus petites, et qui, du coup, engendrent des besoins qui font intervenir ce mix technologique. Alors, vous allez me dire, et l'environnement dans tout ça? Donc, au service de l'économie numérique, donc on est convaincu évidemment de l'importance de l'utilisation du numérique pour la transition environnementale de l'ensemble des secteurs. C'est évident que le numérique a un rôle à jouer là-dedans, mais, et je le souligne avec plusieurs traits fluo, Ça n'exonère pas les acteurs du secteur de leur propre transition environnementale et on est en tout cas engagé sur cette question avec une équipe dédiée qui travaille aux côtés des acteurs présents dans cette salle sur ces questions. Alors sur l'espace, peut-être juste en 30 secondes pour ouvrir, j'imagine, sur la discussion ensuite. Donc là aussi, c'est une question qui est systémique, qui ne couvre pas que les constellations, qu'il est nécessaire d'attraper sur l'ensemble du périmètre de l'espace. C'est une question qui est mondiale, ça a été dit tout à l'heure. Il y a des réflexions au niveau international, évidemment, au sein de l'ONU, de l'OCDE, etc. C'est des réflexions qui prennent du temps, ça a été dit également. Et donc nous, on travaille évidemment à aiguillonner aussi la Commission européenne sur ces questions et on travaille sur le périmètre qui est le nôtre au niveau national. Et évidemment, il est important que ces réflexions ne prennent pas en compte la seule empreinte carbone, mais également l'ensemble des dimensions qui seront développées dans la journée. Et bon, nous, évidemment, on est convaincus que les entreprises françaises et les acteurs français au sens large ont un rôle à jouer dans cette démarche. Et je pense que ça sera prouvé dans les différents échanges qui auront lieu aujourd'hui. Voilà.
Loïc, merci pour ce panorama qui était presque notre objectif. Je te taquine. J'ai une question avant qu'on rentre vraiment dans la séquence de discussion. Est-ce que à ce stade, vous n'avez non pas des questions, mais des besoins de clarification sur des termes et des expressions employées ? Est-ce que vous avez besoin qu'on clarifie tel mot, telle expression ou tel concept pour qu'on soit sûr et certain que dans leur ensemble, on parte à peu près du même pied pour cette discussion ? C'est important pour moi de vous poser la question. Si il n'y a pas de question de clarification, je vais pouvoir ouvrir la deuxième partie de cette discussion en donnant la parole à David. Bonjour.
Bonjour.
David, vous êtes secrétaire général de Telsat. Donc, merci Loïc. Secrétaire général de Telsat, qui est une entreprise que je pense que tout le monde connaît ici. Depuis un certain moment. Eutelsat, vous allez peut-être en parler, a franchi une étape récemment, justement je peux l'appeler conquête de l'espace, ou en tout cas dans cette réflexion autour des constellations satellitaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes et quelle est l'approche de Eutelsat par rapport au sujet dont on a parlé, et notamment sur les questions d'usage et de bénéfices des méga-constellations ?
Avec grand plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous et très heureux d'être ici pour cette matinée de débats et d'échanges sur un sujet effectivement important. Alors si vous connaissez tous le groupe Eutelsat, j'en serais ravi parce qu'on est un tout petit peu moins connu, j'ai l'impression en ce moment, en tout cas mentionné dans le débat, que quelques-uns des autres noms qui ont circulé jusqu'à présent. Si vous ne nous connaissez pas si bien, vous êtes pardonnés. Et je vais donc vous parler de nous un peu. Le groupe Eutelsat, c'est effectivement la réunion toute récente d'Eutelsat, opérateur français et européen historique de télécommunications par satellite, et de OneWeb, une start-up à l'origine américaine puis anglo-indienne, qui exploite l'une de ces... Alors je ne sais pas si je dirais dans notre cas méga-constellation, parce que la constellation de OneWeb est plutôt une petite constellation, par rapport à d'autres, mais nous sommes donc l'addition de la flotte de satellites géostationnaires de Telsat, 37 satellites aujourd'hui, et des 634 satellites en orbite basse de OneWeb. Et nous servons donc des usages divers, et je pense que c'est vraiment important de parler de nos usages. Donc nous avons une activité traditionnelle ancienne qui est celle de la vidéo par satellite, et y compris peut-être même en France, selon là où vous habitez, vous regardez la télévision, notamment dans les zones blanches, grâce à l'une de nos filiales qui s'appelle Fransat. Et on pourra revenir d'ailleurs sur l'intérêt du bilan carbone aussi de la télévision par satellite, par opposition par exemple à la télé que vous pouvez regarder sur votre mobile en 4G. Là, il y a une vraie différence. À cela, nous ajoutons ce qu'on appelle dans le jargon des verticales, des différents métiers qui correspondent à des cas d'usage. Alors, des cas d'usage qui peuvent être gouvernementaux, civils ou militaires, mais qui procurent de la résilience à des réseaux un peu stratégiques de communication ou en cas de catastrophe naturelle. On fait des télécoms en mobilité, là où les réseaux ne suivent pas, y compris à la mer. sur les océans ou dans les airs à bord des avions. On fait également du soutien au réseau télécom terrestre existant parce que pour qu'il y ait par exemple de la connectivité sur un pylône, ben, parfois ça va être grâce à la fibre, mais si ce pylône est trop difficile à atteindre, il va en fait recevoir son signal par satellite. Et donc il y a une vraie complémentarité en fait entre le satellite et le terrestre, et moi je ne voudrais pas que les deux soient opposés, c'est-à-dire nous ne cherchons pas à fournir des services là où il y en a déjà au plan terrestre, et donc à être, sauf de très rares cas où précisément le but c'est la redondance, mais sinon nous ne cherchons pas à doublonner et donc à augmenter le bilan carbone ou environnemental, mais vraiment à être présent là où il n'y a pas d'autres solutions.
Est-ce que c'est ça un opérateur responsable, parce que c'est un terme, une expression qui est ressortie de la préparation de cette table ronde?
Alors c'est en tout cas très important pour nous d'être un opérateur responsable. Et c'est peut-être là aussi ce qui fait notre originalité par rapport à d'autres acteurs étrangers. Nous d'abord, nous avons une longue expérience de l'espace, de plus de 40 ans, en orbite géostationnaire, qui est aujourd'hui, il faut le dire, une orbite quasiment saturée, donc où la question du retrait des objets existants en fin de vie est quelque chose de très important. Donc, nous sommes pleinement conscients de ça et nous avons d'ailleurs un excellent bilan en matière de succès de désorbitation de nos objets en géo, donc comme on dit. Et donc nous sommes d'autant plus intéressés à préserver aussi les orbites basses. Et là-dessus, bon, c'est un peu la raison pour laquelle aussi nous nous sommes dirigés vers OneWeb quand nous en avons fait l'acquisition, parce que c'est une constellation à l'empreinte plus légère. Il y a moins d'objets qui, par design, a intégré certaines caractéristiques qui en assurent la durabilité, y compris pour faciliter des opérations de retrait actif quand ces technologies seront pleinement matures. Donc oui, être un opérateur responsable, c'est très important pour nous, ça fait partie de nos objectifs.
Merci David. Estelle, je me tourne vers vous, bonjour. Tout à l'heure, alors, je titillais David en parlant de conquête de l'espace, mais lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous êtes allé plus loin que le mot conquête de l'espace. Vous parliez de colonisation de l'espace. Pour vous, il y a une course à la colonisation de l'espace avec un modèle qui est un modèle qu'on a vu dans ce qu'on appelle l'économie du partage, même si partage n'est pas le mot qu'il faut accoler à cette économie, qui est grosso modo que celui qui va le plus vite a gagné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en quelques mots c'est la thèse que vous défendez et pourquoi c'est important d'en prendre conscience, non pas à l'échelle d'un petit nombre d'experts que nous sommes ici, dont d'ailleurs je ne fais pas partie, mais plutôt à une échelle citoyenne?
Oui, en fait, ça me semble important de parler au-delà des enjeux techniques et des enjeux économiques, aussi des enjeux sociétaux, puisque jusqu'à présent, ça n'a pas été complètement abordé. Et finalement, sous l'angle de cet aspect de colonisation, donc l'espace n'appartient à personne, donc il appartient à tout le monde. Ça veut dire que le premier qui arrive, c'est le premier servi. Et ça, c'est vrai que ça pose souci, notamment sur un espace qui va être limité, une zone limitée. À un moment donné, on va atteindre une saturation. Si cette saturation, elle est atteinte par un nombre limité d'acteurs, alors se pose réellement la question de savoir comment gérer l'accès aux services que proposent ces acteurs de manière égalitaire. Entre les différentes les parties prenantes de la société civile. Donc c'est en ça que je pense que ce problème de saturation, c'est un réel problème économique aussi et sociétal. Et c'était la question que je voulais adresser ici. Pour moi, on revit une tragédie des communs, en fait. C'est-à-dire qu'on a un espace qui n'appartient à personne, qui est colonisé par certains et qui, du coup, dans l'usage, va, au niveau de l'accès, être limité. Et souvent, comme usage commercial, on met en avant l'accès à des zones blanches, la couverture de zones blanches, avoir Internet sur des zones géographiques où il est difficile d'obtenir cette couverture. Mais finalement, d'un point de vue économique, les gens qui habitent dans ces zones ne sont pas nécessairement les gens qui ont la plus de dispositions à payer. Et donc, si les services sont fournis par un monopole, à ce moment-là, on peut réellement se poser la question de l'accès égalitaire à cet Internet. Donc, d'un point de vue économique, c'est très difficile à concevoir.
Donc, ce que vous dites, si je tire le fil, c'est que on justifie aujourd'hui en partie l'envoi de ces satellites dans l'espace par le fait d'apporter davantage de connectés, de couvrir davantage de territoires, de permettre à davantage de personnes de bénéficier de ces services. Mais d'une part, ces citoyens, citoyennes ne sont pas consultés, ils ne sont pas impliqués. Et d'autre part, bien souvent, je tire le fil, hein, vous avez le droit de me contredire, hein, ceux au nom de qui on met en place ces services, en fait, finalement, n'en bénéficient pas toujours.
Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, Elon Musk, par exemple, est en procès depuis 2021 avec une association de fermiers américains qui avait participé au financement de satellites pour être justement couverts et améliorer leur productivité, la façon dont ils géraient leur culture. Et le contrat a été dénoncé, le service n'est pas du tout fourni. Les satellites ont été lancés, mais l'usage, pour eux, n'a pas été respecté. Donc, du coup, ce qui me fait, en fait, basculer sur l'autre point, mais peut-être que tu veux l'introduire.
Non, ouais. Non.
Ouais. Qui est celui des investissements. C'est-à-dire que ces investissements sont lourds. Parfois, on mélange de l'argent public et de l'argent privé. Donc, ça pose la question de l'objectif final, mais disons que ces investissements qui sont lourds pour des rentabilités qui sont finalement à horizon court, un satellite dans l'espace Léo, sa durée de vie c'est 5 ans, est-ce qu'on est sûr d'obtenir une rentabilité par rapport à ce satellite particulier? On se pose réellement la question de cette rentabilité. Et également, quand il s'agit d'argent public, la société civile est en droit de se demander si la destination de ces investissements doit être l'espace par rapport à, quand on sait les limites des bourses de l'État, des États, plutôt qu'autre chose, l'alimentation, l'éducation, le développement de manière générale et le mieux vivre des sociétés. Donc la consultation, pour moi, là, est quelque chose d'important. Et enfin, donc là, il y a l'aspect destination des fonds publics, mais il y a aussi les investissements qui sont réalisés par les industries et les industriels et font des investissements pour pouvoir se lancer dans l'espace. Et finalement, une fois qu'ils ont fait ces investissements, quand on se place quelques années plus tard, ces investissements ont été faits et s'il faut rajouter des investissements, on va se retrouver un petit peu bloqué. C'est un problème qui est bien connu en économie, un problème de hold-up, où finalement, vous avez plutôt tendance à remettre de l'argent dans un projet qui a été lancé. Donc, si on se pose la question maintenant, peut-être que c'est intéressant de réellement décider ou non d'investir sur le sujet.
C'est comme quand je fais la queue pour aller quelque part et que la queue s'allonge ou dure trop longtemps et que je me dis que j'ai trop fait la queue pour pouvoir quitter.
Voilà,
la queue.
Exactement.
Alors, merci Estelle. Irénée, bonjour.
Bonjour.
Tu as plusieurs casquettes. Tu es consultant, tu es hôte. Tu vas très prochainement publier un ouvrage, peut-être que tu nous en parleras, sur l'histoire de l'espace. Et par ailleurs, tu es cofondateur d'une association qui s'appelle Le Mouton Numérique. J'aimerais que tu reviennes quand même sur le parallèle qu'on peut dresser entre ce qu'on a pu observer avec l'accroissement des usages et des pratiques numériques il y a une quinzaine d'années, ce qu'on en a appris en termes de débats sur les usages et les bénéfices et les impacts de la numérisation, puisque évidemment les bénéfices sont, comment dire, ne sont plus à prouver. En tout cas, il y a un certain nombre de bénéfices qu'on peut mettre en avant et ce qu'on est en train de constater dans l'univers du spatial. Et je crois que notamment tu voulais nous parler du syndrome de Kessler qui est peut-être connu plus ou moins nettement et clairement ici.
D'ailleurs, ça fait tilt, je crois qu'on n'en a pas encore parlé.
Tout à fait, c'est assez étonnant, il est 11h48.
Mais ça tombe bien, ta question, elle fait le lien finalement entre les travaux que j'ai publiés sur le numérique et puis ce livre à venir avec mon collègue Arnaud Saint-Martin qui est là-bas. Donc livre qui sort en février, qui s'appelle déjà « Une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space ». C'est un titre qui fait un peu peur, mais c'est un travail qui est... Il n'y a pas de préface, c'est un travail de deux chercheurs qui... ont surtout compilé beaucoup de bibliographies savantes en histoire des sciences, des techniques, en sociologie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rebat un petit peu un siècle, un petit siècle d'histoire spatiale, ce qui permet aussi de prendre du recul. Alors peut-être sur ta question, moi mon précédent ouvrage portait sur la démocratisation des choix technologiques dans le numérique, et effectivement ce qu'on constate, mais c'est pas forcément une surprise, c'est que il y a assez peu de formats en fait de démocratisation des choix technologiques, les questions sont souvent mal posées, on en reparle avec les satellites par exemple de fractures numériques, donc combler les déficits de connexion dans les zones blanches, mais aucun sociologue, aucun chercheur ne vous parle de fractures numériques, on est tous des fracturés du numérique. Parce qu'on ne sait pas gérer nos données, parce qu'on ne sait pas gérer nos enfants qui sont devant les téléphones, etc. Il n'y a pas ceux qui ont l'accès, ceux qui n'ont pas l'accès. Parfois, les gens qui ont l'accès n'arrivent pas à pointer à la CAF parce qu'il faut prendre un rendez-vous en ligne. Donc les problèmes sont toujours plus complexes que connectés versus pas connectés. Mais il y a quelque chose de plus dans le spatial, et moi qui m'intéresse beaucoup, puisque toutes ces technologies sont aussi basées sur des promesses, hein, tenues ou pas trop tenues. Dans le spatial, on a quand même une longue histoire de promesses non tenues. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on a des promesses d'économie lunaire, on a des promesses de découvertes scientifiques extraordinaires, on a tout ça qui nimbe finalement tout ce qui est spatial d'une aura un peu particulière, qu'on a vu aujourd'hui d'ailleurs, et qu'on ne peut pas retirer comme ça, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de fascinant. Mais peut-on parler de la pollution orbitale ? Et moi, j'ai trouvé qu'elle était quand même traitée dans des termes un petit peu optimistes. Hein. On peut aller vers des catastrophes, il faut se projeter dans ce scénario, et puis agrémenter ça du rêve spatial, du fait d'habiter sur Mars. On ne parle pas du tout de la même chose, en fait. Là, on est en train de parler de débris qui existent déjà, qui demandent déjà à ce que des satellites scientifiques soient déviés, donc, ce qui réduit leur vie, et qui peuvent créer demain un effet Kessler, donc vous irez regarder, mais il y a des gens qui connaissent très bien le sujet ici, hein, des collisions en chaîne qui vont détruire, empêcher l'accès à certaines orbites. Donc il ne s'agit pas du tout de verser dans le catastrophisme, mais qu'est-ce qui se passe si on n'a plus ces orbites qui sont cruciales pour le travail scientifique ? Je pense que la question, elle mérite d'être posée, d'autant plus sérieusement que dans le spatial, il y a, et j'en finirai là si tu veux, il y a toujours un... C'est un peu un gimmick, on l'a vu beaucoup avec Arnaud dans notre travail, de promesses non tenues et puis de promesses d'économie exponentielle, hein, avec un marché qui grossirait en permanence. En fait, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas en tout cas le cas qui correspond à ce qu'on voit dans les chiffres des cabinets de conseil et des rapports. Alors, je pense notamment à un rapport de l'Agence spatiale européenne publié récemment, un rapport rédigé par un groupe d'experts dits de haut niveau. Alors, où on ramasse tout, hein. On met l'économie lunaire, on met l'économie martienne, on met la science, on met les satellites de télécommunication, et puis on débouche sur X trilliards de dollars à l'horizon 2040. Faut regarder plus froidement la réalité du spatial et se demander si ça c'est réel, si ça c'est vrai. Parce que ça conforte aussi la construction de bulles qui elles aussi sont fréquentes dans le spatial. On a eu dans les années 2000 avec d'autres constellations, Télédésie, Global Star, etc. Il y en a en ce moment sur d'autres pans de l'activité spatiale, notamment les micro-lanceurs. On sent que bon, c'est pas quand même trop ça, quoi. Et du coup, on serait tenté aussi de rentrer un peu dans cette escalade mimétique entre les États-Unis qui en envoient plein pour leurs raisons, les Chinois qui suivent. Et donc je m'arrête là parce que j'ai ouvert beaucoup de portes. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà.
Merci Irénée. Jean-Luc Fugit, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Vous êtes député et vous avez la lourde tâche, la lourde responsabilité de prendre tout ça, ou peut-être une partie de tout ça, et de se dire ce qu'on en fait et quel est le rôle du Parlement entre, d'un côté, évaluer les enjeux, évaluer les usages, les bénéfices, les impacts, de l'autre, réguler ce qui peut l'être. Faire en sorte que ce qui ne peut pas être régulé peut être à minima orchestré ou organisé pour le diriger vers une solution qui serait souhaitable. Comment, à la lumière de ce qui vient d'être dit, comment vous pouvez nous raconter ce que vous faites notamment au sein de l'OPEST, et je ne sais même si je l'ai prononcé correctement, en tout cas...
Je vais clarifier tout ça.
Exactement, et nous donner votre avis sur le sujet.
Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, je fais partie, peut-être un peu comme le slammer tout à l'heure, des intrus de la matinée. Donc, puisque moi, je ne travaille pas directement dans le domaine du spatial. Peut-être je vais juste clarifier déjà ce qu'est l'OPEX, pour que vous compreniez d'où je parle. Donc, l'OPEX, c'est donc, comme c'est écrit ici, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il réunit 18 sénateurs et 18 députés, donc un peu au prorata de la taille des groupes politiques, etc. Bref, ces 36 parlementaires que nous sommes, nous avons là un échantillon de la biodiversité des groupes politiques qui œuvrent au Parlement français. Et dans biodiversité, il y a donc évidemment la diversité. Et donc avec des approches qui ne sont pas toutes les mêmes, bien entendu, pour chacune et chacun d'entre nous. Notre rôle, c'est d'éclairer l'ensemble du Parlement, 900 parlementaires dans ce pays, et sur les différents enjeux, des enjeux aussi bien sanitaires, des enjeux d'énergie, des enjeux d'alimentation, des enjeux donc aussi du spatial. Et sur la base de ces travaux-là, on essaie de convaincre nos collègues qu'il faut regarder ces sujets avec une approche qui est un petit peu différente d'une approche purement politique assez classique. Simplement vous dire avant de m'exprimer sur le sujet que moi je suis au départ un chercheur, donc je suis ravi de voir une autre... Si je précise tout ça, c'est parce qu'il arrive parfois que quand... il y a des acteurs politiques dans une table ronde comme celle-ci, on se dit, bon, bah, c'est encore un politique, donc encore un qui ne sert à rien, tout comme ça, etc. Je connais par cœur hein, le phénomène. D'accord ? Est-ce que vous pensez ? Simplement, dites-vous bien qu'il y a aussi des gens qui connaissent la vraie vie et qui siègent au Parlement, et il y en a même beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc voilà, je tiens à le dire. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à ce que vous évoquez. Alors, moi, au sein de l'OPEXT, je suis entre autres les sujets d'énergie, d'environnement, je suis pas mal de sujets, de sujets spatiaux. Je préside par ailleurs le Conseil supérieur de l'énergie, mais ça c'est en dehors de l'OPEXT, et je préside bénévolement, je le précise aussi parce qu'on ne sait jamais. Simplement vous dire que les sujets spatiaux, on les suit à l'OPEXT, et notamment moi je les suis particulièrement. J'ai rendu un certain nombre de travaux donc, sur les lanceurs, sur la question des satellites et leurs applications, et c'est à ce propos que je me suis aperçu qu'il y avait un domaine qui était encore... pas du tout suivi par le Parlement, il faut dire les choses, c'est la question de l'encombrement spatial. Et alors le hasard, c'est parce que c'est le hasard, monsieur Bonal qui est là dans la salle le sait très bien, nous avons débuté avec un collègue, le sénateur Ludovic Haye, une série d'auditions qui va nous amener donc justement à mieux comprendre cette problématique, et l'idée derrière c'est de publier une note dans laquelle nous allons informer nos collègues de l'état de la situation. Pour ça, nous allons auditionner un certain nombre d'entre vous. Nous avons commencé, M. Bonal, la semaine dernière. Nous allons poursuivre, bien entendu. Nous auditionnons toutes les personnes que nous trouvons intéressantes à auditionner. Nous n'avons pas de parti pris sur ce sujet. Et l'idée, ça sera aussi, sur cette base-là, d'apporter des premières, peut-être, non pas recommandations, mais sûrement des constats, et se dire derrière, il va falloir peut-être se poser un certain nombre de questions, et notamment, comme vous l'avez dit, aller faire un état des lieux et peut-être regarder la question de la régulation. J'imagine qu'à travers la discussion, on va revenir sur tout ça. Je voulais simplement vous faire la remarque que, sur tout ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivé tout à l'heure, et évidemment, tout ce domaine-là, vous le connaissez très bien, il y a un air de cousinage très fort avec la question de l'énergie, que je connais très bien par ailleurs. Puisque tout ceci est indispensable à nos vies, plus personne ne peut imaginer vivre sans avoir accès à de l'énergie. D'ailleurs, on parle parfois de production d'énergie, ce qui n'a jamais existé. La consommation d'énergie n'existe pas non plus. La seule chose que nous faisons, c'est de la transformation. Et c'est extrêmement important, parce que si vous pensez transformation, vous savez très bien qu'il y a un impact. Et donc, là aussi, on a une question d'impact. Et c'est cet impact-là qu'il faut évaluer, qu'il va falloir probablement réguler. Et puis, au fond, au service de quoi ? Et donc, c'est là qu'il faut se poser la question. Parce que si je prends un ou deux exemples parmi tout ce que vous avez évoqué, on a parlé de la fracture numérique, etc. Désolé, mais moi, j'y fais très attention à ça. Je ne conçois pas d'être dans un pays où il n'y a pas un accès à l'ensemble de mes compatriotes à l'accès donc au numérique. Moi, je suis député dans le département du Rhône, et dans ma circonscription, il y a énormément de gens qui vivent en milieu rural. Et donc, moi, je suis fier d'ailleurs d'être député. Je suis moi-même un fils de paysan.
ce qui d'ailleurs montre bien qu'on peut être de la majorité présidentielle tout en étant élu et réélu en milieu rural, au milieu des paysans. Je le dis au passage pour celles et ceux qui ont des fois des visions très auto-centrées de ce que c'est que la politique française. Eh bien, ces personnes-là ont le droit aussi. Donc, et là, c'est une véritable question d'aménagement du territoire. Et quand on pose la question de l'aménagement du territoire, on a besoin donc du numérique comme ailleurs, et on a besoin pour ça des applications satellitaires, on a besoin des satellites, on a besoin de tout ce qui se passe dans l'espace. On dit souvent qu'une partie de notre avenir sur Terre se joue dans l'espace, et bien c'est vrai, on le sait très bien. Et nous y sommes particulièrement attachés au Parlement à faire en sorte que nos compatriotes aient un accès donc le plus équitable possible à toutes ces nouvelles technologies. Et ça, c'est, on y reviendra, j'imagine, à travers l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on peut faire aussi sur l'agriculture. L'agriculture, je rappelle que c'est fondamental, pas pour les agriculteurs, c'est fondamental pour chacune et chacun d'entre vous. Parce que sans agriculture, il n'y a pas d'alimentation. Évidemment, c'est une porte ouverte. Mais encore, faut-il l'avoir en tête. Et sans agriculture, il n'y a pas d'aménagement du territoire en termes de beauté des paysages. Quand on va se promener, qu'on fantasme, là, on dit, ah, c'est super beau, etc. etc. S'il n'y a pas d'agriculteurs, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et la neutralité carbone, elle ne s'atteindra pas sans agriculteurs. Sauf que nos agriculteurs, aujourd'hui, ils ont besoin aussi d'une agriculture de précision. On a besoin de faire évoluer notre agriculture. Notre agriculture, elle a connu le machinisme, première révolution. Deuxième révolution, elle a connu la chimie. Troisième révolution, elle a besoin maintenant du numérique parce qu'on doit aller vers le mieux nourrir. Et donc, quand elle a besoin de numérique, pour l'assurance paramétrique, pour l'agriculture de précision, pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, etc., etc., on a besoin de toutes les applications spatiales. Voilà pourquoi nous, on regarde ça au niveau de l'intérêt général. Et c'est vrai qu'il faut éviter que tout ce qui se passe dans l'espace soit une somme d'intérêts particuliers, quels qu'en soient les pays derrière, qui sont évidemment des puissances pas toujours favorables à la démocratie dans un pays comme le nôtre.
Merci Jean-Luc. Alors je vois que Estelle et Irénée et David veulent réagir. Donc je vais vous laisser réagir dans cet ordre-là. Et j'ai un micro. Donc je vais vous décevoir et vous frustrer, on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui ont été soulevées au cours de vos interventions, mais on va essayer d'en traiter quelques-unes. Donc je vous fais confiance et j'ai un petit micro ici pour, si vous avez des questions ou des remarques à poser, on attendra peut-être un deuxième passage pour le faire. Et petite consigne, je vous demande d'être concise et concis dans vos réactions de manière à ce qu'on puisse avoir quand même un temps d'interaction intéressant avec les personnes dans la salle.
Oui, moi je voulais juste réagir sur l'accès, donner l'accès à chacun de manière égale au numérique est tout à fait louable. Le choix technologique qu'on fait peut justifier l'utilisation du satellite, mais je pense que un des problèmes qu'on a soulevé ici et qui est lié du coup à la régulation qu'on pourrait en faire, c'est le nombre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un nombre aussi important de satellites lancés? Pourquoi on a besoin de ces méga-constellations? Est-ce que réellement d'en envoyer autant améliore significativement la qualité de ce qu'on peut proposer en termes de numérique? Et ensuite, je reviens à ce que j'avais dit, si c'est colonisé par certains, on sera obligé de passer par cela. Et là, se posera la question de comment est-ce qu'on permet l'accès à quel contrat, quel prix, s'ils sont...
Ouais, j'allais enchaîner un peu sur la même chose. On n'a pas besoin de 5000 satellites en orbite pour faire de l'assurance paramétrique. On peut très bien s'en contenter de quelques-uns, en fait, hein, tout simplement. Et donc, c'est un peu le souci aujourd'hui. Aussi se méfier des visions un peu linéaires. Hein. On a besoin de l'espace. Oui, on a eu les machines, on a eu le numérique. Vous disiez, on a l'espace demain. Ça nous place dans une espèce de situation qui est quand même un peu une sorte de fatalité technologique. Oui, on a besoin d'espace, mais je pense que personne dans la salle ne dit l'inverse. Je ne vais pas me répéter, mais à un moment donné, enfin vous répétez, c'est vraiment le nombre qui compte et qui pose aussi, encore une fois, cette question un peu rhétorique. Enfin, si je fais aussi un retour historique, puisque bon, c'est aussi l'objet de notre livre, mais on a toujours cette rhétorique quand même depuis les années 60, hein, d'ailleurs dans les télécommunications spatiales, de connecter les non-connectés, de, pour le dire un petit peu caricaturalement, civiliser les non-civilisés. C'est ça, au début aussi, les télécommunications spatiales. C'est un principe un peu hégémonique, hein, aux États-Unis, hein, qui consiste aussi à faire passer des idées. Et je pense qu'il faut regarder aussi Starlink, parce qu'on parle de Starlink, en fait, beaucoup. Personne n'a rien contre les satellites de télécommunications dans l'absolu qui vous permettent, scientifiques ou autres, hein, enfin, voilà. Mais Starlink, c'est aussi ça. C'est une puissance hégémonique avec un modèle qui est un peu celui de la terre brûlée. Hein. Vous arrivez, vous cassez les prix, vous prenez tout le marché, vous inscrivez ça dans le conglomérat muskien qui fonctionne aussi avec le vol habité. D'où l'importance de ne pas confondre tout, parce que c'est aussi sur cette passion pour le vol habité, pour le spatial pris comme un tout, comme un flou, que Musk fonctionne et que peut-être, dans une certaine mesure, Starlink fonctionne. Donc il faut voir à quel point ça, c'est hégémonique. Et je veux parler de la Chine, mais juste pour dire un mot, c'est un petit peu pareil de l'autre côté. Il y a une escalade mimétique. Vous avez des constellations chinoises, notamment le réseau national, c'est 13 000 demandes de créneaux, aussi pour des raisons militaires. Starlink, c'est aussi un objet militaire, alors, à travers le civil comme en Ukraine, à travers Starshield, de façon tout à fait assumée, avec des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars auprès de la Space Force, notamment pour des missions d'observation terrestre. Donc on ne peut pas ne pas voir ça, en fait. Et je pense qu'il y a un mot qui a beaucoup été dit aujourd'hui, c'est le mot « gérer », en fait, qui pose aussi la question de « mais est-ce qu'on gère, en fait ?» Est-ce qu'on a quand même des arènes du spatial ? On a le COPUOS, on a plusieurs arènes qui permettent de discuter. La France, puissance spatiale alors mineure par rapport aux États-Unis, mais quand même importante. Est-ce qu'il n'est pas possible un peu de taper du poing sur la table et de dire « mais attention, je le redis, hein, je veux pas être normatif ou avoir l'impression de donner un avis qui serait caricaturé comme même militant ou quoi que ce soit, c'est pas le cas. Il y a des dangers, genre, l'ONU le dit, il y a des points de bascule de risque dans l'espace, au même titre qu'il y a des limites planétaires. Donc encore une fois, il faut s'imaginer ce qui se passe si on dépasse ces limites. La basse orbite, hein, c'est quasiment la Terre, hein. Il y a un cordon ombilical entre la Station spatiale internationale et nous. Hein. Ça retombe assez vite. Enfin, on est quand même un petit peu chez nous. Et donc l'Europe a aussi besoin d'avoir, au-delà de cette réponse, de cette défense en termes de gestion, besoin d'avoir une politique spatiale, en fait, qui parle aussi sur la question des télécommunications. Et on voit bien qu'il y a un flou aujourd'hui. Enfin, prenez Ariane 6, les premiers marchés d'Ariane 6, 17 lancements, je crois, c'est pour la constellation de Jeff Bezos. Alors, on comprend qu'il faut des marchés, effectivement. Hein. C'est compliqué, le lancement, on n'a pas de fusée, on est dans un contexte difficile. Mais où est-ce qu'on navigue, en fait ? Où est-ce qu'on pointe la direction où aller pour dire, attention, nous, les Européens, on veut utiliser l'espace, on veut continuer à l'utiliser contre des conglomérats qui sont assez objectivement dangereux, en fait, le conglomérat muskien. Et par ailleurs, je termine juste sur une chose, hein. Cette fascination, on parlait de consultation citoyenne, mais il ne faut pas rêver. Aux États-Unis, quand on connaît l'histoire du spatial, ce n'est pas un domaine qui est consultatif. Alors, c'est un domaine qui est surtout secret, qui est d'abord militaire, qui ensuite est un petit peu civil aussi pour faire un peu passer la pilule, ne serait-ce qu'en termes budgétaires. Hein. On ne parle pas des mêmes ordres de grandeur entre le budget de la NASA, celui du DOD, et puis de 17 agences ensuite qui fonctionnent aussi avec le spatial. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez, par exemple, dans les sondages, et c'est le cas depuis les années 70, vous n'avez pas de soutien au programme lunaire. Il est très faible. C'est quelque chose qui n'est pas souhaité. Donc, si vous retirez aujourd'hui ce principe-là, cette vision-là lunaire et martienne aux États-Unis, c'est un risque politique immense, en fait, parce que vous faites tomber éventuellement le Starship et peut-être même Starlink, en fait, derrière.
David, j'imagine que vous voulez...
Oui, je voulais réagir à plusieurs des choses qui ont été dites. Et en fait, on est dans une conférence sur l'espace, mais revenir à des choses assez terre à terre, hein, finalement, et à la réalité des usages d'abord. Redire un mot de financement également, et puis parler de régulation. Sur les usages, d'abord quand même pour dire que alors, Eutelsat te promet pas la Lune et encore moins Mars. Nous, on cherche juste des clients là où ils sont, et je vous assure que s'il n'y avait pas de clients pour ce qu'on propose, on ne serait plus une entreprise à succès. Et donc, il y a une réalité aujourd'hui. La connectivité satellitaire, ça marche. D'ailleurs, on est bien obligé de le dire. Ma directrice générale de la première, celui qui l'a démontré, c'est Elon Musk. Nous pensons le faire aussi avec nos solutions, que ce soit celle d'Eutelsat en géo ou de OneWeb. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des gens en France, comme ailleurs dans le monde, qui ont de l'Internet par satellite avec à peu près les mêmes performances que des débits terrestres, aussi bien en termes de pur débit que de latence. Donc ça n'est pas un plan sur la comète, pour filer la métaphore, c'est une réalité. Et c'est une réalité à laquelle les gens peuvent accéder en France. Ça n'est pas plus cher que les solutions terrestres. Et c'est même, d'ailleurs, la France est plutôt en avance en Europe là-dessus, c'est même souvent subventionné, à la fois par le guichet cohésion des territoires et, dans certains cas, par des régions. Et comme l'a très bien rappelé Monsieur le député, il le vit en tant qu'élu, nous, on le vit à travers nos partenaires opérateurs de télécommunications, je vous assure, il y a une demande pour ça. Enfin, les gens, aujourd'hui, veulent de la connectivité. Donc, ce n'est pas juste une espèce d'idée de quelques entreprises comme la mienne qui se dit, tiens, on va aller proposer ça à ces pauvres gens qui n'ont rien. Non, enfin, y a des gens qui, encore une fois, demandent cela. Alors, sur quel financement ? C'est vrai que je viens de parler de subventions. Et c'est heureux qu'effectivement il puisse y avoir des subventions sur l'usage de notre point de vue. Mais je tiens à souligner que dans le cas d'une entreprise comme Telsat, nous investissons nos propres capitaux dans nos satellites, que ce soit encore une fois nos satellites traditionnels ou ceux de OneWeb. D'ailleurs, la raison pour laquelle Telsat est rentré dans le capital de OneWeb, c'était parce que cette constellation avait besoin d'investissements supplémentaires pour finir son déploiement. Ce sont des investissements privés. Alors bien entendu, nous bénéficions aussi, ou plus exactement, les manufacturiers de satellites que nous utilisons bénéficient par exemple de la R&D qui peut être subventionnée par la puissance publique, mais ce sont des capitaux privés qui vont là-dedans. Et l'autre aspect sur lequel je voulais appeler l'attention, c'est celui aussi du choix justement d'arbitrage de l'usage de la dépense, qu'elle soit publique ou privée. Aujourd'hui, on estime, c'est pas Eutelsat qui le dit, c'est l'Observatoire du très haut débit, qu'il y a environ à peu près encore 500 000 foyers très difficiles à raccorder en France pour un coût estimé à 2,6 milliards. Ces foyers très difficiles à raccorder peuvent avoir de l'Internet satellitaire. Bon, bah, que vaut-il mieux, 2,6 milliards de dépenses publiques de plus pour les raccorder ? Ou de l'investissement privé dans une constellation. Je pense que ça aussi, ce sont des choix d'allocation de dépenses qui doivent être posés.
Des antennes peut-être aussi.
Pardon ?
Des antennes. Enfin, on peut aussi mettre des moyens au sol pour connecter les gens qui ne sont pas connectés.
Mais sauf que quand on parle d'endroits très difficiles à raccorder, c'est précisément parce que ça va être très difficile ou très coûteux de mettre un pylône, parce que le dernier kilomètre de fibre va être extrêmement coûteux à construire, et donc le satellite est plus rentable de ce point de vue-là.
Mais c'est intéressant, enfin, est-ce qu'il faut que ce soit rentable, d'une part, et ensuite, vous le dites en creux aussi, on est avec ces constellations sur des marchés qui sont très réduits, qui sont de niche, hein. Starlink en France, c'est 20 000 clients, quelque chose comme ça, bon, je n'ai pas suivi les chiffres récemment, évidemment, c'est les gens qui s'y connectent en ont besoin, sinon ils ne le feraient pas. Alors, passons sur la qualité de service, puisque ce n'est pas encore ça, mais ça pourrait s'améliorer. Mais pour un maillage mondial, on est quand même en train d'installer une infrastructure qui est... C'est un peu du gâchis, quand même. Enfin, je pense particulièrement à Starlink. C'est énormément de satellites. Enfin, si on va vraiment vers 42 000 satellites, plus 40 000, puisque après on arrive à 100 000. Hein. Et là, d'ailleurs, je voyais juste, pour vous dire à quel point c'est spéculatif, à l'Union internationale des télécoms, vous avez 1 million de demandes de créneaux satellitaires. Alors, ce qui ne veut pas dire que dans un million...
On sait très bien que la plupart ne seront pas utilisés.
Évidemment, c'est certain, mais ça dit quelque chose aussi du caractère spéculatif de ce marché pour assez peu de gens. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies ? Vous qui faites du géo et du léo.
J'en viens d'abord à assez peu de gens. Alors, en France, peut-être, encore une fois, je pense qu'il faut respecter ce peu de gens et leur offrir des solutions. Ensuite, évidemment, les constellations sont mondiales, donc on ne parle pas uniquement de la France. Nous, on sert aussi des marchés mondiaux. Et par exemple, on a déjà aujourd'hui 200 000 utilisateurs connectés en Afrique. On a fait une promesse à l'UIT d'aller vers le million. Donc là, on parle déjà d'autres ordres de grandeur. Et donc ces gens méritent aussi d'avoir des solutions, d'être considérés. Mais là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, et c'était le point que je voulais faire sur la régulation, c'est que dans les processus d'autorisation des constellations, il y a assurément un point à prendre en compte qui est la taille de ces constellations. Et là-dessus, avec OneWeb, nous sommes relativement à l'aise, je l'ai dit, on est en dessous du millier de satellites, mais effectivement, ne faut-il pas inclure aussi un critère de taille de constellation et de se dire qu'effectivement, je ne sais pas, peut-être que 3000 ça va encore, mais que 12 ou 42, c'est effectivement absurde, surtout s'il n'y a pas qu'un acteur, mais il y en a plusieurs. Donc cette question-là de la taille des constellations est également, ou doit devenir, un vrai sujet. J'ajoute une dernière dimension qui est aussi, et ça c'est sans doute parce qu'on est dans une période de foisonnement de l'exploitation des orbites, bon, on se focalise beaucoup sur les méga-constellations de satellites de télécommunications, mais la vérité c'est qu'il y a plein d'autres petites constellations qui se mettent en place pour des tas d'usages. Vous avez aujourd'hui plein de start-up qui lancent des constellations pour l'observation de la Terre, la détection de signaux électromagnétiques, etc. Et on est un peu dans le mode aujourd'hui, tiens, j'ai une idée, je lève de l'argent et je fais une constellation. On ne sait pas si l'entreprise sera très durable et peut-être qu'elle va laisser en orbite pour des dizaines d'années quelques dizaines de satellites, alors pas des milliers, oui, mais quelques dizaines, qui seront des débris. Et donc, ce que nous disons aussi, c'est que, quitte à avoir des méga-constellations, autant les voir comme des infrastructures un peu multi-usages, c'est un peu l'autoroute. Voilà, vous ne faites pas des autoroutes partout, c'est très à la mode en plus en ce moment, je sais, à la mode entre guillemets. Voilà, vous avez aussi parfois d'autres types de routes, mais donc vous réservez l'autoroute à un certain nombre de choses, mais vous l'ouvrez à tous. Et donc sur des infrastructures comme des méga-constellations, vous pouvez avoir sur les mêmes satellites plusieurs types de charges utiles qui vont justement remplir ces différents usages plutôt que d'avoir des tas de gens qui relancent sans cesse des nouveaux satellites avec cette idée, encore une fois, une idée et un satellite.
Merci. David, avant de redonner la parole, je sais que vous voulez réagir, Jean-Luc. Dans la salle, il y avait quelques personnes qui ont levé la main, qui avaient des questions. Donc je veux bien qu'on les prenne maintenant.
Bonjour. Je voulais rebondir sur l'analogie avec l'énergie qui a été proposée par Monsieur Jean-Luc Fugy. En posant la question de est-ce que pour le secteur spatial et en particulier européen, il s'agit de décarboner l'existant ou est-ce qu'il s'agit de faire un effort à ne pas carboner à l'avenir profiter aussi de reprendre la dernière analogie de M. David Bertolotti qui est celle des routes. Comment on fait pour construire des routes satellitaires pour nos données qui nous permettent d'avoir des usages numériques sobres? Comment on fait pour faire ces satellites pistes cyclables?
Merci. On va prendre quelques questions. Il y avait un monsieur juste devant, je crois. Oui. Allez-y.
Bonjour. Mathieu, moi je suis de l'ADEME, donc je vais poser des questions sur l'environnement et c'est vraiment une question de compréhension. Parce que là, on parle beaucoup d'outils de régulation et on dit aussi que certains des espaces sont quasiment saturés. Or, en première analyse, si on regarde les impacts environnementaux, c'est essentiellement la construction et le lancement des satellites. Et donc, si on est déjà quasiment saturé sur un truc comme ça, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? C'est vraiment une question bête. Où est-ce qu'on en est en termes d'enjeux sur les questions climatiques, clairement carbone et même déchets ?
Merci. Oui, allez-y.
Oui, bonjour. Florence du CNES. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus technique. C'est par rapport à cette notion de besoin. En a-t-on vraiment besoin? Donc, par rapport aux télécoms, aux besoins d'Internet. Et cette notion de toujours plus vite, on crée du besoin, on veut toujours que ce soit plus rapide. Est-ce qu'on se rend compte vraiment du gain que l'on a si on gagne une seconde? Est-ce qu'on a vraiment besoin de gagner cette seconde? Et donc, aujourd'hui, il y a tout ce qui est terrestre, il y a les géostationnaires et il y a les méga-constellations. Et donc, ma question, c'est peut-être un peu plus pour M. Bertolotti. Par rapport aux géostationnaires qui couvrent déjà les zones blanches que ne couvre pas le terrestre, est-ce qu'il y a vraiment besoin des méga-constellations? Alors après, on ne pourra pas empêcher malheureusement le développement s'il y a un marché et si les gens consomment. Mais tout ça, ça revient à voilà, cette notion de besoin. Et vous avez racheté OneWeb. Est-ce que c'est pour répondre à des questions techniques ou pour répondre à une demande?
On va prendre. Je vais essayer de prendre. Il y a une question du monsieur. Excuse-moi. Je vais prioriser ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Il y avait Sabrina. Oui, allez-y.
Donc, Didier Flander, Numérisat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait rentrer dans une notion d'économie des usages et d'éco-responsabilité des usages? Il y avait des travaux qui avaient été engagés par l'ARCEP sur le numérique soutenable. Et en fait, dans les travaux qui avaient été faits, donc il apparaissait en fait que, ben je dirais, tout ce qui était lié au... Il y a toute une série d'usages du numérique qui, en fait, est excessivement consommateur d'énergie. Quand on entend le discours d'Elon Musk, c'est en gros sa vision du monde, c'est permettre aux gens d'accéder à Netflix, entre autres. Voilà. Tout ça, c'est très consommateur. On en est même aujourd'hui au niveau des opérateurs de télécom à faire de la promotion sur la 4K, sur les portables, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, revenir en arrière et faire en sorte que les gens consomment en fonction des usages, comme on le fait dans le domaine électrique, et évoluer dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, bon, le numérique... est magnifique, c'est une ressource qui coûte de plus en plus, et il faut peut-être à un moment donné rentrer dans une notion d'éco-responsabilité de tous ces usages, et notamment se poser les bonnes questions par rapport justement à l'utilisation des géos, des léos, etc., par rapport à tous ces usages. Et en effet, bon, un géostationnaire apporte... au niveau des territoires, énormément de services, et l'a prouvé depuis plus de 10 ans, hein, de toute façon, que l'Internet existe.
Merci Didier. Et je vais prendre une dernière question pour juste là, devant. Et je vous laisserai choisir les questions auxquelles vous voulez répondre et qui comptent avec vos propos.
Oui, donc moi j'avais plutôt... une question, mais plutôt aussi une mise en... Comment dire, en fait, il faudrait se remettre dans le contexte géopolitique. J'entendais, en effet, le fait est-ce qu'on a besoin de toutes ces constellations. Mais après, il faut savoir que le spatial, c'est un signe de puissance. Est-ce qu'on pourra empêcher les autres pays, finalement? Qu'est-ce qui nous autorise de dire à la Chine ou à l'Inde ou aux États-Unis, non, ne faites pas cette constellation? On peut peut-être juste compter juste sur les ingénieurs qui font ça de manière intelligente pour éviter que ça devienne la catastrophe dans l'espace. Et encore, voilà, j'ai un peu, moi aussi, je provoque un petit peu. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du space traffic management qui devrait se mettre en place, ce genre de choses pour réguler, mais on n'en est pas là, et encore moins sur une scène internationale. Est-ce que finalement, c'est pas forcément qu'on aura la réponse, hein, j'en profite aussi parce qu'on est en présence de personnes qui, au niveau politique, peut-être peuvent aider, comment en fait on pourrait... amener en fait cette question au niveau sur la scène internationale, parce que finalement c'est le seul moyen qu'on arrivera pour résoudre ces problèmes en fait.
Ce que je vous propose pour répondre à cette question, aux questions auxquelles vous voulez répondre, c'est de partir du contexte de français, en tout cas de ce qui existe en France ou de ce qu'on peut faire en France, et de voir comment on peut l'étendre ou jusqu'à quel point on peut l'étendre, afin qu'on ressorte pas d'ici forcément nécessairement avec des solutions, mais peut-être avec une compréhension d'où on part et dans quelle mesure, parce qu'on a beaucoup parlé de Starlink, mais Starlink, c'est en dehors aujourd'hui, sauf erreur de ma part, de notre capacité d'action ici. Sauf erreur de ma part. Voilà. Donc je vous propose de répondre à ces questions en partant de ce scope-là, afin aussi que chacun et chacune ici reparte en se disant ok, c'est des problèmes qui sont parfois qui nous dépassent. Néanmoins, je repars en disant, on a entendu qu'il y a une capacité d'action possible à telle ou telle échelle. Et je vous laisse le choix sur l'ordre des réponses. Estelle, je voyais que tu voulais...
Bon, après, je suis peut-être la moins concernée par les questions, en fait, puisque sur l'aspect technique, j'y répondrai pas. Mais là où ça me fait réagir, c'est par rapport à cet aspect. Alors, tu nous demandes de revenir à la France. Finalement, je pense qu'un des problèmes, c'est justement que ça implique tout le monde. Donc, c'est plutôt un règlement international qu'il faudrait arriver à viser. Et malheureusement, et une régulation sur laquelle on s'entend aussi, d'un point de vue coordonné. Et c'est ça qui, c'est, à mon avis, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place.
Justement, ce point-là, pardon si je me permets, c'est un point qu'on entend souvent, et il y a beaucoup de personnes qui disent on n'arrivera pas à une régulation internationale, et ça peut-être faire un peu comme le pas le syndrome, mais disons c'est l'animal qui est pris dans les phares d'une voiture la nuit, qui ne va pas bouger parce que de toute façon, elle ne voit pas la solution. Est-ce que, même si c'est un contexte international, est-ce que depuis la France, on a une capacité d'action ou de montrer l'exemple qui soit plus jusque de l'ordre du symbolique.
Oui, bah déjà, c'est le plus haut niveau, c'est le mieux. Donc, effectivement, le niveau européen, c'est peut-être ce qu'il faut viser en premier, notamment parce que... Alors, là, je vais peut-être me servir, moi, de mon background. Donc, moi, je suis spécialiste en aviation. Et dans l'aviation, c'est aussi un marché mondial. Donc, finalement, comme c'est un marché mondial, les règlements internationaux ont été difficiles à mettre en place. D'un point de vue sécurité, ça a été très, très vite mis en place. Donc, on a créé l'OACI, par exemple, qui est une émanation de l'ONU, qui permet d'établir des pratiques communes par rapport à la sécurité. Et quand il en est venu, par exemple, à régler les problèmes d'environnement, bah, ça a été très compliqué, mais vraiment. Donc l'Europe a essayé de pousser pour une solution qui elle a accouché d'une souris en 2011. Maintenant que l'aviation a vraiment été épinglée et doit faire des efforts, on va avoir une implémentation qui est un peu plus générale. Et l'OACI s'est enfin saisie du sujet pour en faire un problème mondial. Donc finalement, je pense que ça dépend quand même de nous au final. Hein. Moi, je dirais que si on commence à se mettre dans un monde où on se dit qu'on ne peut pas, ben on ne va pas pouvoir, ça c'est sûr. Donc c'est plus quelque chose de plus concret. Et après, si je peux juste continuer sur l'aspect réglementation environnementale, parce que finalement on n'en a pas parlé, les outils économiques ils existent, notamment ex post pour contrôler ces problèmes de pollution, on va taxer, alors pollueur, payeur, on va dire ah tu as pollué, je te taxe à mesure de l'impact social que ta pollution a eu. Donc on a des mesures correctives de ce type-là. Mais je pense que c'est vraiment dommage de l'envisager sous cet angle-là, alors qu'on n'a pas encore lancé l'activité. Donc établir vraiment des règles par rapport, ex ante, par rapport à la gestion des débris, à des collisions, et surtout mettre les moyens en face de les mettre en œuvre, ça me paraît essentiel. Donc là, c'est du boulot pour l'ARCEP, pour moi.
Je voulais rebondir sur la question du bon niveau de régulation. Et puis, au passage, je vais essayer de répondre à une ou deux questions. Et ça vous paraîtra peut-être étonnant qu'un représentant d'un industriel appelle à plus de réglementation. Mais en fait, c'est bien ce que nous souhaitons, nous aussi. Mais on a deux niveaux possibles d'action. Il y a un niveau, effectivement, international, qui est le niveau idéal, qui est très souhaitable, mais qui malheureusement, pour des raisons diplomatiques essentiellement, avance lentement. Je pense qu'il avancera parce que des réflexions comme celles que nous en avons ce matin, il y en a partout aujourd'hui dans le monde, la prise de conscience est là, les choses avancent, mais voilà, il y a une lourdeur à l'élaboration de la réglementation internationale acceptée par tous. Je pense que ça viendra. Mais il y a à l'autre extrémité, pour capturer l'action de ces méga-constellations, il y a des leviers réglementaires dans les différents pays. Et l'ARCEP, co-organisatrice, le sait bien, puisqu'elle est l'un de ces leviers. Vous en avez parlé ce matin. Les méga-constellations, notamment de télécom, pour opérer, enfin, comme tous les opérateurs de télécom, utilisent du spectre des fréquences. Et ceci est une ressource réglementée en France. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réel lien entre la problématique environnementale dont on parle et l'autorisation en matière de fréquence. Aujourd'hui, la plupart des régulateurs regardent, voilà, est-ce qu'il y a la place, pas la place sur le spectre, et est-ce que si je mets quelqu'un sur cette portion du spectre, il va brouiller son voisin. C'est une approche purement limitée au domaine technique des fréquences. Mais si demain vous dites non seulement est-ce qu'il va brouiller son voisin, mais est-ce qu'il se comporte mal dans l'espace, est-ce qu'il ne respecte pas le même niveau de normes que la loi spatiale française, par exemple, ou la future loi spatiale européenne. Si nous avons demain l'Europe qui dit, certes, je suis un grand marché libre, mais je mets des conditions pour proposer vos services de connectivité sur mon marché, vous devez remplir un certain nombre de conditions, là, on a les leviers. Et vous verrez que très vite, les opérateurs commerciaux, s'ils veulent continuer d'opérer sur les marchés, ils seront bien obligés de s'aligner. Et donc nous, c'est un peu ce que nous appelons. Alors, le risque quand on fait ça, évidemment, si on le fait seul dans son coin, il y a immédiatement des rétorsions. C'est-à-dire, si vous le faites, tel autre État va le faire, à l'avantage de son industrie, à votre désavantage. Mais au bout d'un moment, ça s'égalise et il y a une base commune de normes qui est adopté. Donc je pense que c'est vraiment ça la direction d'avenir. Après, faut-il réglementer les usages, avoir des usages plus responsables? Ça n'est pas forcément à moi de le dire. On retombe là dans une question effectivement plus sociétale, voire politique. Simplement, aujourd'hui, et vous le comprendrez, je pense, nous, en tant qu'opérateurs de services, n'allons pas nous interdire, a priori, de répondre à une demande qui est là, car oui, elle est là. Alors, on peut peut-être juger que c'est ridicule de vouloir avoir moins de latence, parce que c'est, par exemple, ce que permet l'orbite basse par rapport à l'orbite géostationnaire. Et aujourd'hui, il y a effectivement des usages d'Internet qui nécessitent de la très faible latence. Vous avez aussi des utilisateurs gouvernementaux et notamment militaires qui veulent, tout en utilisant des capacités commerciales, avoir de la latence la plus faible possible parce que leurs systèmes de combat sont conçus comme ça. Donc nous y répondons. Alors nous essayons de marier le meilleur des deux mondes et de dire aux gens, écoutez, en tout cas c'est la vision qu'on a pour la combinaison des deux aspects de notre business, de dire aux gens, écoutez, pour regarder Netflix, vous pouvez très bien passer par un géo, vous n'avez pas besoin d'une latence faible, voilà, vous n'apercevrez pas de la différence. En revanche, si vous faites du trading haute fréquence, il vous faut de la faible latence et donc on vous la proposera par l'orbite basse. Et voilà. Après, encore une fois, le choix de la pertinence de ces usages, de leur développement, n'est plus vraiment le nôtre. C'est une question de société, une question politique. Mais je dirais que je préfère encore, si ces usages sont reconnus et qu'ils sont là, j'aime autant qu'ils soient servis en tant que Français et Européens par une constellation française et européenne plutôt que d'être remis à un autre acteur dans une perspective de souveraineté.
Moi, j'aimerais bien réagir sur la question des services. Parce qu'en fait, au fond, j'ai pris quelques exemples tout à l'heure, histoire y compris de voir si ça réagissait un petit peu. On devrait tous d'abord raisonner. Et moi, c'est comme ça que je raisonne. Peut-être un petit peu de manière idéaliste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le service rendu. Parce que c'est ça, le dénominateur commun qu'on devrait tous avoir. Et le développement de méga-constellations ou autres, etc., pour moi, et je sais que c'est compliqué, mais évidemment qu'il va falloir aller vers une régulation. Il va bien falloir, à un moment donné, qu'on converge, trouver une manière de faire. Parce que l'encombrement spatial dont on parle, il va quand même générer un certain nombre de difficultés. Nous sommes au début des travaux avec mon collègue, quand nous regardons ça de près, nous rendrons nos conclusions dans quelques temps, vous les commenterez, d'ici là vous pouvez largement alimenter notre réflexion, mais raisonnons en matière de services rendus. Et aujourd'hui, le numérique à travers donc l'outil spatial qui nous permettra d'avoir du numérique pour telle ou telle application, c'est important, c'est intéressant. Quand en matière de mobilité, on peut sur une ligne de TGV améliorer la fréquentation à nombre de trains équivalents de 15% grâce à des applications satellitaires supplémentaires, ça, c'est intéressant. Je dis bien un nombre de trains, voilà. Donc, c'est faire mieux avec, pas plus, mais équivalent. Et c'est là que derrière va arriver, quelqu'un a fait le lien tout à l'heure avec l'énergie, la question de la sobriété. Parce que notre société, elle manque de quoi, principalement? On peut s'interroger tous à titre individuel, dans nos modes de vie, de déplacement, etc. On manque tous un petit peu de sobriété. On peut quand même le reconnaître. Et largement même. Et sur ce sujet comme sur d'autres, on va devoir aller vers de la sobriété. Certains doivent se dire, mais cause toujours. Mais n'empêche que c'est ça. Et quand on est dans l'action publique, et la présidente de l'ARCEP le sait très bien, elle connaît très bien l'action publique, on doit affronter deux choses. Ce n'est pas évident d'ailleurs. La complexité des systèmes qu'on a à appréhender, à comprendre, pour essayer d'eux. Et l'action publique, c'est la complexité. Et on doit aussi affronter l'impatience. On doit affronter le temps. En réalité, ce n'est pas le temps qu'on doit affronter, c'est l'impatience du temps. Parce que oui, certains de nos concitoyens, ils peuvent ne pas comprendre pourquoi, quand on se trouve à 25 km du centre-ville de Lyon, on n'a même pas le téléphone portable qui fonctionne correctement. Moi, quand j'ai été élu en 2017, c'est ce que j'ai découvert d'une partie du territoire rural dont je suis député, à 25 km du centre-ville de Lyon. Alors, ça peut faire sourire à certains. Sauf que en termes d'aménagement du territoire, c'est extrêmement important. Et si on veut faire de la ruralité une ruralité conquérante et non pas gémissante, eh bien, on doit apporter des services. Et moi, quand je dis qu'il faut apporter des services en matière de mobilité, de distribution maîtrisée de l'énergie, de l'accès donc pour pouvoir avoir des usages numériques professionnels, mais aussi personnels. Le Netflix ou autre, etc., c'est du personnel, d'accord, mais il y a aussi le professionnel. Quand on veut avoir des médecins dans telle ou telle ruralité, ils nous disent oui, très bien, mais moi je voudrais avoir ça et ça. Eh bien tout ça, on doit le réguler, on doit le penser, c'est ça l'aménagement du territoire, et donc tout ce qui se passe là-haut doit nous servir. Ceci dit, en termes de sobriété, en termes de régulation, nous, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse avec l'OPEX, au-delà de sensibiliser mes collègues, c'est aussi de donner les clés de compréhension à l'ensemble de nos compatriotes. Et qu'on ne se retrouve pas, sur ces sujets-là, à réfléchir uniquement entre gens qui sont plus ou moins initiés. Et ici, vous l'êtes plus qu'au moins. Et ça, c'est extrêmement important. C'est fondamental d'essayer de comprendre. Et oui, je pense qu'il faudra aller vers une régulation. Oui, moi, j'affirme qu'il faudra aller vers de la sobriété sur tous ces sujets. Mais en même temps, moi je suis plutôt volontariste, je suis parfois optimiste, et parfois il m'arrive d'être pessimiste. Et excusez-moi de faire un peu de politique, mais quand je vois le résultat de l'élection en Argentine hier, je me dis quand même que c'est loin d'être gagné à ce stade. Vous avez entendu les propos du nouveau président de l'Argentine.
Ouais,
si vous n'êtes pas convaincu, allez écouter les propos concernant les questions environnementales. Or là, on parle des questions environnementales ce matin. Il va falloir, à un moment donné, mettre de la régulation. Il va falloir pousser entre nous, l'endroit où il va falloir pousser, c'est pas que la France, vous l'avez très bien, Estelle l'a très bien expliqué. C'est au niveau Europe, c'est sûr qu'il va falloir déjà qu'on arrive à... Voilà. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment porté politiquement, je le dis clairement, il n'est pas suffisamment porté politiquement, et on devra le porter de plus en plus. Et moi, je suis ravi de cet événement ce matin. Je suis ravi de croiser évidemment la présidente de l'ARCEP, mais aussi d'avoir croisé le président de l'ADEME et que l'ADEME, qui est des gens qui sont ici et soit présent, etc. Je trouve que c'est extrêmement important. Et n'ayons pas peur de dire les choses, parce que quelqu'un l'a évoqué. Quelqu'un a évoqué, là, est-ce qu'il faut à tout prix vouloir gagner la seconde, etc. Moi, je m'interroge exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Je pense qu'il faut pas. Personnellement, je pense qu'à un moment donné, il y a des limites. On n'est peut-être pas obligé de vouloir gagner, d'aller chercher à tout prix la seconde, etc. etc. Bon, ça nous aurait peut-être permis de gagner la Coupe du Monde de rugby si on avait pu avoir quelques influences sur deux ou trois personnes qui ont pris des décisions étonnantes le 15 octobre dernier. Mais en dehors de ça, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions et accepter un peu de sobriété dans tout ça parce que la course. Effréné vers une certaine performance ou dite performance, c'est quand même assez inquiétant. Et encore une fois, quand vous mettez ça versus l'élection de certains dirigeants dans le monde, vous vous dites quand même qu'on est loin d'être arrivé au bout du chemin. Donc la complexité des choses est particulièrement importante et il faut qu'on ait des clés de compréhension, il faut surtout trouver les moyens de réguler tout ça. Et c'est ça qui va être compliqué, mais il faut le faire, point de vue.
Je vais devoir tenir mon rôle d'arbitre parce que sinon je vais me faire plaquer par l'organisation sur le retard qu'on est en train de prendre. Irénée, ce que je te propose, c'est de conclure avec cette discussion. Et ensuite, vous l'aurez compris, peut-être qu'on aura le droit à une intervention juste après toi. Donc je t'invite aussi à faire attention à ce que tu vas dire parce que maintenant tu as vu l'animal. Donc, tu as vu
moi, je l'avais déjà vu. Je ne sais pas si j'ai des réponses à toutes les questions, mais ce qui vient d'être dit, quand même. M'interpelle et il y avait une question sur la sobriété, il y avait une question sur la Chine, sur le contexte international. Moi, ça me ramène beaucoup ces enjeux du espèce de dilemme du prisonnier ou qu'est-ce qu'on fait si l'autre le fait, etc. Qui étaient un peu les mêmes à certains égards sur la 5G, quand même, où on a eu des discours qui étaient d'une part axés sur la compétitivité qu'il fallait avoir face à des pays qui déjà envoyé des satellites 5G pour la Chine, et puis d'un autre côté, des usages croissants. Et c'est ça que pose la question de la sobriété, c'est qu'on était toujours quand même un peu dans la spéculation sur les usages. Il faut comprendre comment se forme un réseau comme la 5G. Je fais une analogie, encore une fois, je la tire un peu. On a la commission qui fait des rapports qui ensuite vont à l'Union internationale des télécoms, qui fabriquent les réseaux sur des échelles à peu près de 10 ans, quoi. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, et on anticipe des usages. Et aujourd'hui, on anticipe des usages sur la 6G, donc, en termes de connectivité, de nombre d'objets, de jumeaux numériques, de tout un tas de choses. Et la 5G, il y avait vraiment ce discours selon lequel, dans 5 ans, dans 10 ans,
les citoyens, les usagers, les consommateurs, hein, puisque tout ça c'est un peu la même chose, allaient avoir besoin de consommer tant de vidéos, tant de machins, tant de trucs, d'accord, qui sont en passage autant de plateformes souvent qui nous viennent des États-Unis, mais en préjugeant complètement la réalité de certains de ces usages. C'est vraiment de... C'est un peu performatif, si vous voulez, la question des usages. Donc, c'est un peu facile de se poser à la question concurrentielle, la question géopolitique, en y rajoutant le fait que les gens consommeront forcément plus pour finir par déployer ce qu'on avait prévu de déployer, puisque c'est déjà financé, en fait. Donc, on est bien obligé de le déployer. C'est un peu aussi ça, ce dont on parle avec Arnaud dans notre livre, quand on parle d'astrocapitalisme. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, mais c'est aussi une manière pour le capitalisme avec... Enfin, on le connaît un peu ce système quand même et ses défauts, de résoudre ses contradictions internes, d'évacuer son excès de capital dans de nouveaux marchés, dans de nouveaux endroits, dans de nouveaux espaces, y compris en ce qui concerne l'espace jusqu'à la Lune et Mars. Donc, enfin, je pense que l'analogie avec la 5G, elle est vraiment importante aussi, et j'en finis là, Toufik, dans la mesure où on aura et on a les mêmes promesses avec les constellations de satellites. Donc on nous parle déjà de faire fonctionner des voitures autonomes. Alors, ce n'est pas gagné, ça ne marche pas trop. Il y a des questions assurantielles qui sont quand même assez profondes qui se posent. Mais on voit bien qu'on n'a pas posé la question des besoins, en fait. Et donc, moi, je rejoins monsieur le député. Effectivement, on a besoin, là, c'est réel, d'avoir de la connectivité de base partout. C'est limite un droit comme l'eau. Enfin, personne ne pose cette question-là. Mais dans quoi on se projette, en fait? Où est-ce que nous projette? Je retombe un peu sur Musk, hein, désolé, mais l'Europe fait un peu pareil. Enfin, je veux dire, on a quand même des projections d'usage, hein, qui sont un peu matinées de plus de précautions, mais on n'est pas dans la précaution, quoi. Hein. Si on n'est pas dans la mesure. Si on prend, par exemple, en 2019-2020, au moment de la 5G, on prévoyait, je ne sais pas combien de milliards de capteurs partout qui n'auront pas été posés, d'ailleurs, puisque ça n'a pas forcément d'intérêt. Je veux dire, enfin, voilà.
C'est ce que tu appelles le suivisme, notamment.
Bah oui, non, mais après c'est une forme de suivisme. Enfin, de toute façon, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Mais c'est un peu la question que moi j'aimerais vous poser à vous, politique. Enfin, comment on organise cette sobriété? Où est-ce qu'on dit, on a vraiment des seuils? Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on dit, mais là on n'y va pas en fait parce qu'on va peut-être mettre des câbles partout et ça va coûter très cher, mais on aura des antennes au sol et au moins on ne pourrira pas les orbites.
Eh bien, je propose que le député ne réponde pas à cette question.
Voilà. Le gars
doit être assez frustrant, désolé. Monsieur,
non, mais je vois la crainte que vous avez que je prenne le temps d'expliquer les choses. C'est quand même dommage, quoi. On dit que les élus ne se mêlent pas suffisamment des choses et quand ils sont là, vous ne voulez pas qu'ils parlent.
Je fais ça pour vous protéger aussi, monsieur le député.
C'est la sobriété, vous avez raison.
Exactement, voilà, tout à fait. Donc je vous propose, en tout cas déjà, je vous remercie de vous être prêté au jeu de cette discussion qui n'est pas simple, parce qu'on traverse un certain nombre de sujets sans pouvoir entrer en profondeur. Ce que je retiens et ce que j'aurais envie de partager avec vous, c'est que si on veut comprendre ces questions d'usage, de bénéfices et d'impact, il y a à minima une grille de lecture avec trois axes qui sont la question de la numérisation. On a beaucoup parlé de latence aujourd'hui, à quel point on recherche cette seconde ou cette dixième de seconde et cette centième de seconde, en quoi ça correspond vraiment à des besoins réels et qu'on couvre également, puisque... Tout à l'heure, tu parlais de fracture numérique, mais le nombre de personnes dites en fracture numérique, moi je suis très critique aussi de ce terme depuis 15 ans, ne diminue pas forcément. On pourrait faire la même analogie sur les questions de personnes qui ne sont pas aujourd'hui couvertes en France par les questions de connectivité. Il y a la question géopolitique, on en a beaucoup parlé. David Bertolotti l'a mis sur la table, la question de la géopolitique, la question de la régulation. En tant qu'opérateur responsable, ce que j'ai compris, c'est que vous appelez de vos voeux à une régulation au niveau européen. Et puis il y a la question des cas d'usage, c'est-à-dire travailler à partir de l'existant. Estelle, replaçant aussi, et je termine là-dessus, cette discussion dans un contexte citoyen, finalement on l'a relativement un peu abordé, cette question de la place des citoyennes et des citoyens dans ce débat, mais je vais laisser la parole à un citoyen, là maintenant, pour conclure cette discussion. Je pense qu'on peut déjà vous applaudir, merci beaucoup.
Oui. Non, il me disait que sur Terre comme dans l'espace, le politique ne peut pas tout. Voilà. Si vous avez besoin d'un avocat, je suis là. Je sens que je suis, paraît-il, le meilleur improvisateur de la Terre. Pas encore de l'espace. Voilà, c'est D'ailleurs, c'est compliqué parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air, du coup, pas de son, du coup, pas d'impro. Voilà, hein, soyons terre à terre. Hein. Mais je fais des plans sur la comète, moi. Hein, c'est, Alors, à qui je vais demander ce mot ? Parce qu'il va falloir que je sois concis. Voilà. Ah oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. C'est... Alors, je ne vais pas faire dans la parité. Parce qu'il n'y a pas la parité là en face de moi. Hein. On... Voilà, voilà. Ou alors changer de genre et on peut peut-être arriver à quelque chose. Oui, hein, après, au bout d'un moment. Hein. Alors, vous ne voulez pas changer de genre ? C'est pas grave. Alors, du coup, Estelle, auriez-vous un mot pour moi ? Un mot au hasard. Hein. Un seul mot. On a dit qu'on faisait concis, mais ouais, on peut prendre plusieurs mots. Hein.
Alors, je veux voir les étoiles.
Je veux voir les étoiles. Oui, en plus, c'est beau, c'est une phrase. Je veux voir les étoiles dans les yeux des écolos. Parce que je ne les vois plus. Soyez pas méchants. Vous savez pourquoi les écolos n'ont pas d'étoiles dans les yeux ? Parce qu'ils voient une constellation de satellites qui les rend malheureux. Je veux voir les étoiles dans les yeux des écolos. Parce que déjà, pour eux, sur Terre, c'est pas rigolo. Alors si en plus, dans l'espace, il va falloir se mettre sur la tête ou sur la gueule, il n'y aura peut-être pas des étoiles pour ceux qui en veulent. Et puis, je voudrais revoir des étoiles dans les yeux des écolos, parce que sur Terre, pour eux, c'est pas rigolo. Mais dans le ciel aussi, ils sont en train de se demander si finalement un bazar n'est pas en train d'arriver, les forçant peut-être à mener les mêmes combats sur Terre que dans l'espace, en apesanteur et peut-être en apnée. Elle était facile, celle-là. L'important, c'est de dire que j'aimerais revoir moi aussi des étoiles. Parce qu'avec toute la pollution interstellaire faite par nous-mêmes, je ne suis même pas capable de pouvoir regarder les constellations que j'aime. Je suis donc consterné à l'idée d'avoir un microscope finalement à la place de quelque chose de géant parce que je ne peux plus voir l'infiniment petit parce qu'en face de moi il y a des satellites infiniment grands. Enfin, ils sont pas très grands mais comme ils sont sur le passage du coup ben ils gênent tout. Du coup, c'est comme si le dropshipping n'était plus possible sur TikTok parce que les influenceurs commençaient à bien travailler. Oups. J'ai pensé ce que j'ai dit, mais je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, parce qu'en réalité, les satellites sont là à cause de TikTok et Instagram. Il fallait vraiment finir par le balancer. Je vais donc être banni de ces réseaux, mais l'important est de dire que le problème aujourd'hui, c'est évidemment notre citoyenneté face à l'hyperconsommation. Je porte une paire de Jordan, je sais que je suis mal placé pour parler, mais j'ai peut-être moins de paires de Jordan qu'Elon Musk, alors je peux quand même continuer à jacter. Et puis, mes Jordan à moi ne seront peut-être pas satellisés autour de la Terre bleue. Donc, je peux encore continuer à foutre le feu. Oui, je veux revoir des étoiles dans les yeux des écolos. Alors, s'il vous plaît, faites un effort. Hein, vous qui êtes technico-politico-écolo, rendez cet exercice un peu plus rigolo. Et faites en sorte que la planète qui est composée d'eau puisse à nouveau être heureuse et faire sourire Monsieur Duflo. J'ai fait comme j'ai pu. Hein.
Très bien.
Je sais. Voilà, la logorée, c'est long en général.
Je ne t'ai pas rendu service en te demandant d'être concis.
Non, mais ne me rend pas service. Ça fait partie de ma thérapie. Je dois chercher aussi à être concis. Voilà. Merci. Faites du bruit pour Toufi qui, de main de maître, a été un fin médiateur. Oui, parce que l'exercice n'est pas facile, même si d'emblée l'assemblée t'est acquise. Tu l'as ?
Non, non. Là, pas là. Là,
non, c'est pas grave.
Là, je suis pas dans la suite, mais merci. C'est bon, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été si attentives et attentifs, d'avoir pu poser vos questions. Évidemment, je le redis, c'est pas une séquence qui est facile. Elle peut être frustrante parce qu'on survole un certain nombre de sujets. Néanmoins, ce qui était important, et je remercie Loïc, que je ne vois plus, qui est juste en face de moi, d'avoir ouvert cette discussion en nous présentant les enjeux. Je vous remercie d'avoir passé du temps à nous expliquer vos points de vue et comment on pouvait tisser entre vos différents points de vue une compréhension commune de nos enjeux. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner.